Bienvenue à l'antenne avec Sophie Wenger, ostéopathe et facilitatrice de Kundalini Activation. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast où, pour mon premier épisode en solo, je te partage une partie de mon parcours et de mes expériences. Je n'ai coupé aucun passage pour favoriser l'authenticité et il y a plusieurs moments de silence parce que je ne suis pas encore familière avec l'exercice et que c'est la première fois que je transmets ces informations en public. J'y parle de comment la vie m'a épargné d'une opération des amygdales enfant et de ce qui m'a amené à devenir ostéopathe, à rencontrer Deepak Chopra, puis un chaman qui ne mangeait plus que du prana depuis plusieurs années, et d'expériences d'amour infini. Installe-toi confortablement avec une tasse de tisane ou une eau citronnée. Garde le cœur et l'esprit ouverts, car ici, moi aussi, je suis libre de partager mon vécu et mes points de vue. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour, bienvenue à l'antenne avec Sophie Wenger. C'est mon premier épisode en solo aujourd'hui, depuis Ubud, la ville médecine, sur la belle île de Bali. On l'appelle l'île des dieux, dans une ambiance toute particulière. Vous voyez cette végétation derrière moi. Je voulais la faire à l'extérieur, mais aujourd'hui, il y a des cérémonies, donc c'est un peu bruyant. Mais bon, là, on est bien. Donc, un épisode qui sera en deux parties. La première, c'est ce qui m'a amenée à devenir ostéopathe et puis ensuite facilitatrice de Kundalini Activation. Jusqu'en 2020, où il y a eu un tournant avec les confinements, la crise sanitaire, etc. Et là, ce sera pour le deuxième épisode avec plus d'informations sur la Kundalini, comment ça se fait que ça a commencé à bouger chez moi et pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir facilitatrice. Donc, pour aujourd'hui, je commencerai juste par me présenter. Je m'appelle donc Sophie Wenger. Je travaille comme ostéopathe depuis une vingtaine d'années, en Suisse surtout, et j'ai aussi fait différents remplacements un peu partout sur la planète. Et ce qui m'a amenée en fait à choisir ce métier, c'est en 2000, à l'âge de 16 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un grave accident de cheval. J'étais en Australie étudiante d'échange à ce moment-là. Et c'est vraiment un accident qui a défié les lois de la physique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis morte. Et puis, je suis revenue. Et là, j'ai eu aucune blessure, même pas d'égratignure, même pas un habit déchiré, absolument rien. Et ça a été pour moi le départ d'un besoin de comprendre ce qui s'était passé, de comprendre comment ça se fait que j'avais pu vivre ça, comment ça se fait que j'avais pas été blessée, l'état de conscience particulier que j'ai eu à ce moment-là, et cette besoin de comprendre aussi la relation corps esprit et puis la vie après la vie. Et déjà, enfant, j'étais particulièrement sensible, j'étais capable de sortir de mon corps. Je me rappelle, je m'amusais la nuit, en fait, j'avais une super technique, c'est que je courais très vite. Et donc, avec mon énergie, en fait, mon corps physique, énergétique, je courais très, très vite. Et puis ensuite, je faisais comme une sorte de saut qui me permettait de rebondir, donc avec la force de ma pensée, de rebondir et du coup de sortir de mon corps. En rebondissant, il y avait une sorte d'effet d'accélération et comme un peu un effet de tremplin. Et ça me permettait de sortir de mon corps. Puis du coup, je volais ici et là, j'allais voyager, j'allais voir des choses, etc. Ce qui m'a valu une belle chute au lit du deuxième étage, parce que une fois, voilà, j'ai pris aussi voulu tester aussi avec mon corps physique, et puis ça s'est un peu mal terminé. Là, j'ai pas pu emmener mon corps physique en vol, donc sans gravité, mais c'était une petite expérience qui m'a fait déjà comprendre un petit peu la différence entre le corps énergétique et puis le corps physique. Ensuite, j'ai eu mon grand-père qui est décédé quand j'étais toute petite. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours senti sa présence, en fait, comme un ange gardien qui veillait sur moi. Et puis, pour moi, c'était quelque chose de complètement normal, dont j'ai parlé à personne parce que ça faisait partie de ma réalité. Puis je pensais que tout le monde vivait la même chose, en fait. C'est seulement bien plus tard où j'en ai parlé à mon maître d'ostéopathie quand je faisais mon assistana après mes études. C'était quelqu'un de très versé dans la religion, dans la spiritualité, etc., qui cherchait à comprendre les choses aussi. Il avait aussi vécu des choses particulières lui-même. Et puis, je ne sais pas pourquoi, une fois, je lui en ai parlé, et puis il m'avait dit « Mais non, c'est pas possible, les anges gardiens, c'est... » Il m'avait expliqué Voilà comment c'était organisé d'après l'Église catholique, etc. Puis il m'avait dit ça peut pas être un ange gardien, blablabla. Bref, ça m'avait un peu perturbé, mais en même temps, moi j'avais ma propre expérience, donc il pouvait me dire ce qu'il voulait. Moi, pour moi, c'était mon grand-père qui veillait sur moi, et puis je sentais bien quand il était présent, quand il n'était pas présent, puis je savais bien que c'était lui ou pas quelqu'un d'autre. Et c'est un peu la particularité de ma vie, c'est que j'ai eu beaucoup d'expériences qui ont fait que pour moi, les choses, moi, je les ai comprises au moment où je les ai vécues, en fait. Et j'ai pas eu besoin d'explications ou de savoir enfin exactement qu'est-ce que c'était. Je vivais avec et puis c'était cool. Donc ça, c'était enfant. Ensuite, ce qui s'est passé aussi, c'est que petite, j'étais tout le temps malade. Je faisais des angines à répétition. Ma maman se faisait souvent du souci pour moi, j'étais tout le temps fatiguée. Et puis, ça a été jusqu'au point, en fait, où mon médecin traitant, mon pédiatre, il a voulu m'opérer des amygdales, enlever mes amygdales et des végétations. Et tout à fait par hasard, il est tombé malade. Et ma mère, en fait, il a eu un remplaçant. Et du coup, ce remplaçant, il a dit à ma mère, non, mais bon, il n'y a pas besoin de lui enlever les amygdales, on va lui donner de l'homéopathie, on va drainer ses vaccins. Et vous verrez, ça va aller beaucoup mieux. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été malade. Et surtout, ben, j'ai pas eu besoin d'enlever ni mes amygdales, ni d'autres organes de mon corps. Et suite à ça, ma mère, après, elle a continué à m'amener chez lui. On a fini de drainer tous les vaccins, etc. Et ça a été déjà là un point de départ de compréhension, en fait, sur le fait d'être malade, sur ces soi-disant vaccins qui sont bons pour notre santé, etc. Enfin, j'en reparle un petit peu plus, je pense, au deuxième épisode. Mais ouais, voilà, déjà une expérience particulière avec une introduction, je dirais, aux médecines douces, d'autres manières de voir les choses à ce moment-là. Et aussi, donc voilà, après, bon, voilà, j'ai vécu ma petite vie, etc., sans trop de soucis. Et donc, à l'âge de 16 ans, quand j'ai vécu cette expérience de mort imminente, je me suis retrouvée dans un état, certaines personnes décrivent qu'elles passent dans une sorte de tunnel, qu'elles voient une sorte de lumière, des fois des anges, des guides, des êtres de lumière, etc. Mais pour moi, non, ça n'a pas été comme ça du tout, c'est que je me suis retrouvée, en fait, dans le rien. Absolument le rien. Et en même temps, c'était un rien qui était le grand tout. Tout était possible, tout existait, mais il n'y avait rien en fait. Et il y avait une forme de bien-être, de... Je peux pas le décrire parce que c'est pas quelque chose que je ressens régulièrement comme ça dans la vie de tous les jours, mais ouais. Et tout à coup, il y a eu comme une sorte de déclic. Un truc comme ça, un interrupteur qu'on on-off, comme ça, tout à coup, on l'enclenche. Et tout à coup, je suis comme revenue à moi. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je suis pas morte. Et je me suis dit, waouh. Et j'ai commencé à. Je me suis dit, mais est-ce que j'arrive à bouger un petit peu? C'est comme si je suis revenue tout à coup dans mon corps. Et j'ai pu commencer à bouger un petit peu, mes doigts de pied, les doigts des mains, etc. Et petit à petit, j'ai pu rebouger mon corps, puis j'ai pu me relever. Et voilà, j'ai absolument rien eu. C'est complètement, complètement particulier, mais c'est ce qui s'est passé pour moi. Et suite à ce moment-là, j'ai vraiment eu une quête, un besoin de comprendre. J'ai fait très vite des cours de massage. Un cours de Reiki aussi, qui n'était pas du tout à la mode à l'époque, mais j'avais ma tante qui faisait ça. Et voilà, je me suis dit, je vais essayer. Et puis ensuite, j'ai commencé l'ostéopathie. Et à l'âge de 17 ans, j'ai eu aussi une expérience très particulière, c'est que je me suis retrouvée dans une autre vie. En fait, j'étais chez un guérisseur, il me mettait les mains sur différentes parties du corps, etc. Et spontanément, comme ça, je me suis retrouvée dans une autre vie. Et ça m'a donné plein de compréhension sur ce que je vivais à ce moment-là. Je vivais une période assez compliquée. J'avais mes parents qui étaient en train de se séparer. Et ça m'a donné plein de compréhension sur la relation que j'avais avec mon père, sur différentes choses. Et voilà, c'était génial. Mais en fait, à ce moment-là, les vies antérieures ou les autres vies, c'était pas quelque chose dont on parlait. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et moi, je l'ai vécu, en fait. Donc, pour moi, depuis ce moment-là, chaque personne qui me dit, mais est-ce que vous croyez aux vies antérieures? Est-ce que tu crois aux vies antérieures? Etc. Moi, je dis, en fait, C'est même pas je crois, c'est je sais que ça existe. Je sais qu'il n'y en a pas que cette vie-ci, qu'il y a d'autres vies. Ça peut être sur Terre, dans d'autres planètes, d'autres dimensions, etc. Et voilà, je l'ai vécu très jeune, donc pour moi, ça fait partie en fait de mon expérience. J'ai commencé à beaucoup lire sur le bouddhisme, sur le soufisme, sur différentes philosophies, aussi sur le taoïsme. J'avais fait tout un travail en études de philosophie sur Lao Tzu, pour ceux qui connaissent. Je me suis intéressée à tout ça aussi, besoin de comprendre, besoin de connaître différentes manières de penser, différentes expériences là aussi. Ensuite, moi j'étais étudiante hein, au collège et j'ai voulu m'inscrire à l'université. En fait, je savais pas trop quoi faire. J'avais envie de voyager, mais je me disais bon, faut quand même que je fasse des études, faut quand même que je fasse quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite en philo, pas en philo, en psychologie, parce que voilà, j'étais intéressée par la psyché, etc., comprendre les émotions, les humains, comment ils fonctionnaient. Donc j'étais inscrite à l'université de Genève, et puis j'ai voulu aller me renseigner pour trouver un appartement début d'été, comme ça. Et puis je me suis dit, oh, bah, je vais aller voir à l'université, certainement qu'il y aura un mur avec un endroit, des petites annonces. Avec peut-être d'autres personnes qui cherchent une chambre, etc. Donc je suis allée là, ma maman m'avait accompagnée, et c'était dans un endroit magnifique. Il y avait je me rappelle, une sorte de grand parc avec des beaux arbres, le cadre était juste splendide. Et je rentre dans le bâtiment où se trouvait la faculté de philosophie, de psychologie, et il y a une sorte d'énergie qui me tombe dessus, un truc mais gris, lourd. C'est la première fois que je sentais ça, ça m'a vraiment pas plu du tout. Donc bon, je suis quand même allée regarder les petites annonces, etc. Mais c'est vrai qu'après, en rentrant, en discutant avec ma maman, je me suis dit, mais moi, il y a un truc qui est lourd, qui est gris, ça ne me va pas. J'ai pas envie d'aller là, franchement, ça ne me va pas. Même que le cadre était magnifique, il y avait ces grands arbres, ces beaux jardins, il y avait de l'espace. À l'intérieur de ce bâtiment, pour moi, c'était vraiment horrible. Je ne me voyais pas faire là 4 années. Et puis du coup, j'ai décidé de pas faire ma rentrée universitaire, ma première année. Je me suis retrouvée sans rien parce que en Suisse, en tout cas, à ce moment-là, il fallait s'inscrire à l'avance quand on voulait faire des études. Et puis là, bien sûr, tous les délais étaient passés. Et je me suis dit, ah, pas grave, j'avais envie de voyager. Donc, je me suis inscrite pour faire hôtesse de l'air. Il y avait Crossair, une compagnie à l'époque qui existait, où on pouvait, je crois, étudier, devenir hôtesse de l'air en quelques mois. Et je me suis dit, cool, je vais faire ça parce que j'avais en fait derrière la tête ma petite idée de devenir ostéo. Mais j'avais envie d'aller aux sources parce que l'ostéopathie, c'est une discipline qui vient des États-Unis. Et moi, j'ai toujours eu ça en moi, c'est toujours autant que possible d'aller à la source de l'enseignement. Puis je me suis dit, ah ouais, moi, j'aimerais bien en fait plutôt d'aller étudier aux États-Unis. Puis surtout que l'école en Suisse, elle était. En tout cas, mon médecin homéopathe, il n'avait pas trop comment dire, d'appréciation pour cette école. Il ne m'avait pas recommandé de la faire, c'est en tout cas pas celle en Suisse. Et du coup, voilà, je n'étais non plus pas motivée à faire celle. En plus, elle était très chère, c'était une école privée. Et je me suis dit, ah ben va bien, je vais faire hôtesse de l'air pendant 2, 3 ans. En plus, j'avais envie d'être indépendante, d'avoir mon appart, de gagner de l'argent, de voyager. Je vais faire ça pendant 2, 3 ans, économiser, et ensuite, je pourrais offrir mes études aux États-Unis. Alors, je me suis inscrite et j'ai eu un entretien, enfin un examen de un examen de test pour voir si j'étais apte à accepter pour faire cette école. Je connaissais à l'époque une ancienne hôtesse de l'air qui avait travaillé de longues années en classe business et première classe chez Swissair. Et puis du coup, elle m'avait un peu briefée. Et puis elle m'avait dit, ouais, alors l'examen d'entrée, il faut vraiment que tu revoies ta géographie, l'histoire, toutes ces choses-là. Du coup, c'est ce que j'avais fait. J'étais retournée dans mes cahiers, etc. Et j'arrive à cet examen. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était plutôt des trucs pratiques, genre je m'étais retrouvée, on s'était retrouvés à deux dans une salle où il y avait des gens qui étaient comme soi-disant des clients dans un avion. Puis on avait une sorte de chariot, puis on devait commencer à leur servir, à boire, à manger. Bien sûr, moi, je m'étais pas du tout préparée. Puis à l'époque, j'avais voyagé, je crois, 2 fois en avion pour aller en Australie et puis pour aller en Turquie en vacances avec mes parents. Donc, j'avais vraiment pas du tout l'habitude de ce que font les hôtesses de l'air, pour comment est-ce qu'elles servent à boire, etc. Et du coup, Enfin, c'était des acteurs, entre guillemets, quoi, qui jouaient les passagers. Ils faisaient n'importe quoi. Ils avaient commencé à fumer. Ils avaient commencé à servir directement du chariot pour boire un coca. Et puis, ben, moi, j'étais toute timide. J'étais là, j'étais consternée par l'attitude de ces gens, en sachant bien qu'ils étaient acteurs, enfin, qu'ils c'était pas des vrais passagers, mais ça m'avait vraiment déstabilisée. Puis, du coup, j'avais pas vraiment trop su réagir. J'ai pas réussi à mettre de l'ordre. Et puis, la collègue avec qui j'étais, ben, non plus, elle était aussi un peu comme moi. On était toutes les deux un peu perdues. Et on a eu aussi un examen écrit. Je me rappelle plus, en plus, c'était en allemand. On avait dû parler de certains thèmes et je me rappelle plus du tout ce que c'était. Mais enfin, bref, j'ai pas du tout été acceptée. J'ai été refusée à cet examen d'entrée pour devenir hôtesse de l'air. Donc voilà, un gros deuil, un des premiers échecs de ma vie, moi qui avais toujours eu de la facilité dans tout ce que je faisais. Et ben, je pense que rétrospectivement, c'était une bonne chose parce que certainement, si je l'avais fait, si j'avais réussi, j'aurais tellement apprécié cette vie confortable, de voyager, etc., que j'aurais jamais fait mes études et je serais certainement partie dans toute autre chose. Donc, là, le destin, là, il a su me fermer une porte pour m'amener là où je devais. Et en fait, je me suis retrouvée, c'était au mois d'août, septembre, pendant 1, 2 mois, à pas savoir quoi faire. Moi, toute ma vie, qui avait toujours été très active, toujours occupée, il y avait cette rentrée universitaire qui arrivait, puis j'étais inscrite nulle part. Je savais pas quoi faire, c'était un peu la déprime. Et puis après, je me disais, mais ouais, quand même, cette école d'ostéopathie et tout. Et finalement, je me suis un peu renseignée. Et en discutant avec mon père, il a dit qu'il était d'accord de m'aider à financer les études. Et c'était pour moi ju juste incroyable parce que mon père, il n'était pas du tout ouvert aux médecines douces, ça l'intéressait pas. Pour lui, c'était des charlatans. Et donc ma mère, elle nous a amenés chez l'homéopathe, elle nous a amenés chez un ostéo aussi, chez des guérisseurs. Donc il laissait faire, mais lui, et tout à coup, il accepte de m'aider à financer ses études, j'en revenais pas. Et puis je me suis renseignée et en fait, il n'y avait pas d'examen d'entrée, il fallait juste avoir la maturité, puis moi je l'avais. Et tout s'est enchaîné, organisé très très vite. En 3 4 jours plus tard, je commençais ma première année avec 2 jours de retard sur mes autres collègues parce que c'est vraiment fait dernière minute. J'avais une tante, enfin une tante de mon papa à l'époque qui habitait à Puy. L'école, elle était à Chailly pour ceux qui connaissent, non, à Belmont, pardon, pour ceux qui connaissent un peu à l'extérieur de Lausanne, sur les Hauts, puis c'était tout près depuis, il suffisait de prendre un bus. Enfin, j'ai pu loger chez elle, tout s'est organisé vraiment très vite et très facilement. Et ouais, je me dis, mais c'est incroyable parce que je crois pas que volontairement j'aurais osé faire ces études-là. C'est vraiment la vie qui m'a poussée à le faire à l'insu de mon plein gré, comme je le dis des fois. Et après, j'étais vraiment très timide, j'avais pas confiance en moi. Et ouais, enfin, je pense que, enfin voilà, c'était vraiment les circonstances qu'il fallait pour que je m'engouffre dans cette voie-là. Et ça a été vraiment très difficile, mes études, parce que moi, l'ostéopathe chez qui on était allé quand j'avais 17-18 ans, il manipulait très, très peu. Et moi, j'aimais pas du tout ça, les manipulations, faire craquer, etc. Et du coup, ben, les études d'ostéopathie, là, à l'école suisse d'ostéopathie à Lausanne, c'était vraiment axé sur ces manipulations. On appelle ça les manipulations structurelles. Donc, on doit faire craquer toutes les parties du corps, chaque articulation, ouais, plusieurs fois par jour, etc. Et puis, quand on apprend ces études, en fait, on est à chaque fois cobaye parce qu'on apprend les uns sur les autres. Et donc, le professeur montre une technique, nous explique comment ça fonctionne, comment placer ses mains, le mouvement qu'on doit faire. Et après, pour s'entraîner, ben, c'est comme ça, c'est sur les collègues, donc on se met deux par deux. Et puis, à un moment, c'est un qui fait sur l'autre, et puis après, c'est l'autre qui fait sur le premier qui avait commencé. Et c'est vraiment dur parce que des fois, bah, quand on se fait manipuler, quand on en a besoin, bah, ça peut faire du bien. Mais quand c'est quelqu'un d'autre et qui apprend sur nous, puis qui ne fait pas toujours exactement les bons gestes, qui n'a pas toujours les bons points d'appui, et que c'est quasiment tous les jours, pendant, je ne sais plus combien on avait de semaines d'études, je crois 45 semaines par année, 5 fois sur 5 ans, je peux vous dire que des fois. Moi, je ressortais mais avec des migraines, avec des douleurs, avec le corps qui était tout cassé. C'était vraiment dur physiquement. Et puis, bien sûr, il y a aussi des fois des émotions qui sont connectées à des manipulations ou à des choses qui peuvent se relâcher. Donc, aussi émotionnellement, et sans compter que c'était des études qui étaient très intenses au niveau apprentissage, on avait beaucoup, beaucoup d'heures de médecine. Donc, il fallait aussi être très apte à enregistrer la matière, à pouvoir la ressortir. Et ouais, j'ai bien failli ne pas arriver au bout. Du reste, après la première année, le premier été, j'avais réussi mon année, mais j'ai dit à mes parents, j'arrête. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je cherche, ça ne me parle pas. J'avais l'impression que. Parce que moi qui étais intéressée par la psychologie, on parlait quasiment pas de l'humain. C'était que de la technique, on était comme des numéros, c'était vraiment. Ouais, j'étais déçue en fait. Mais par chance, heureusement, cette première année, on avait un professeur de biochimie qui était aussi ostéopathe. Et là, vraiment, je lui rends hommage. Marc Fuffray, qui travaillait aussi à Vevey. Ouais, je pense que c'est grâce à lui que j'ai continué finalement mes études. C'est que lui, comme il était aussi ostéopathe et biochimiste, il avait la capacité de comprendre chez ses patients les mécanismes chimiques qui se passaient dans leur corps et qui faisaient, dans certains cas, qui amenaient dans certains cas certaines pathologies ou certaines maladies. Et en fait, il avait l'art de nous apprendre la biochimie, donc les fonctionnements chimiques du corps. Et comment leur dysfonctionnement pouvait créer certaines maladies et comment ça se manifestait chez ces patients. Puis comment, en comprenant ça, il avait pu aider des patients à guérir, à se remettre de problèmes vraiment chroniques et gênants, en le partageant vraiment avec une telle, comment dire, une telle simplicité, mais en même temps en expliquant vraiment ces mécanismes, comment ils se produisaient, puis comment on pouvait interférer sur eux, et comment du coup ça avait une action différente sur le corps. C'était juste passionnant en fait. Et il y avait justement ce côté très humain où on voyait comment on pouvait être utile sur le chemin de santé de certaines personnes. Et c'est grâce à lui en fait qui m'a vraiment donné cet amour du métier, cette compréhension du corps humain, des phénomènes qui pouvaient se passer dans le corps et puis qui pouvaient faire que le corps dysfonctionne. Et on l'a eu seulement en première année, Marc, mais vraiment, ouais, ça, je le remercie pour qu'il nous ait transmis son savoir. Et donc voilà, là, j'ai vécu pendant 5 ans vraiment compliqué. Pendant ce temps-là, j'ai appris aussi les fleurs de Bach. Je m'étais formée pendant mon temps libre parce que ouais, c'est vraiment des domaines qui m'intéressaient. Et aussi, je crois que j'ai oublié de le dire, à l'âge de 17 ans, donc ça c'était avant mes études en fait, à l'âge de 17 ans, ou bien est-ce que je l'ai dit? Je ne me rappelle plus. Je me suis retrouvée dans une autre vie. Ah oui, si, je crois que je l'ai dit. Je l'ai dit, donc c'est bon, je ne vais vous le redire pas une deuxième fois. Et voilà, donc ça m'a amené en 2001 où j'ai fait en fait mon assistanat. À l'époque, les études, c'était comme ça en ostéopathie, c'est qu'on faisait 5 ans d'études à plein temps. Et ensuite, on avait une année d'assistanat. Donc, on travaillait dans un cabinet sous la supervision d'un autre ostéopathe où on recevait des patients, mais où on était sous sa responsabilité. Puis, on pouvait lui poser des questions, on pouvait se référer à lui s'il y avait quoi que ce soit. Et moi, je me suis retrouvée chez un ostéopathe qui travaillait dans le Jura. Il était médecin. C'était à l'époque, il n'y avait que 2 médecins en Suisse qui étaient ostéopathes aussi. Et il travaillait encore comme médecin, c'est-à-dire que son cabinet, il était exclusivement en ostéopathie, mais il faisait encore des gardes le week-end, la nuit, pendant les vacances, où il pouvait être amené de recevoir des patients en médecine, de les orienter à l'hôpital, etc. Et il pouvait bien sûr toujours demander des examens complémentaires, prescrire des médicaments. Il avait vraiment, du coup, ce bagage médical qui était très, très, très présent et puis très utile aussi pour mes études. Et surtout, il était spécialisé sur le système nerveux. Et c'était très rare à l'époque, les ostéopathes qui travaillaient sur le système nerveux. Il a par la suite commencé même à donner des cours de formation continue pour les ostéopathes, justement, sur le système nerveux. Et lui, c'était un médecin ostéopathe qui travaillait sur ce qu'il appelait le corps, âme, esprit. Donc, il travaillait le corps des patients, leur système nerveux aussi, mais avec cette compréhension que des fois, ce qu'il appelait des verrous, certains blocages pouvaient venir de situations au niveau plutôt de l'âme, des choses plus émotionnelles, ou même carrément au niveau de l'esprit, donc des choses aussi sur le plan spirituel. Et ça a été pour moi vraiment je dirais presque une guérison en fait, par rapport à cette souffrance que j'avais eue pendant mes études où il y avait, je disais, un côté vraiment très peu humain, ce qui est complètement, comment dire, contradictoire, enfin paradoxal. Quand on travaille en tant qu'ostéo ou on étudie en tant qu'ostéo, l'humain, ça devrait être la base. Et puis là, non, c'était que des techniques. Enfin bref, et lui, il avait vraiment ce côté très humain. Et ça m'a fait vraiment du bien. C'était vraiment. Et en plus, ce qui était génial, c'est qu'il prenait vraiment le temps de. Au début, mes consultations, c'était 1 heure et demie. Et donc, je m'occupais moi-même de l'interrogatoire, de l'examen clinique des patients. Et ensuite, je devais aller le chercher. Et il venait vers moi avec le patient. Je devais lui expliquer la situation du patient, son histoire médicale et son motif de consultation. Et puis aussi, qu'est-ce que j'avais trouvé au niveau de mon diagnostic ostéopathique. Et puis, quels étaient aussi. Quel était mon axe de traitement que j'envisageais. Et lui, ben, il reprenait quelques tests, il faisait aussi ses tests à lui, il me montrait aussi des manières qu'il avait, lui, de faire certains tests. Et donc, après, soit il me donnait son feu vert sur le traitement que j'avais envisagé de faire, ou soit il me donnait son avis à lui, et du coup, je faisais après ce qu'il me proposait. Des fois, on faisait un petit bout ensemble, ou des fois, je faisais seul, ça dépend. Ça dépendait. Puis après, ben, il repartait. Et puis, donc, à moi, après, de m'occuper du patient. Et à la fin, quand j'avais terminé, eh bien, je devais aller le chercher de nouveau. Et il repassait avec moi et le patient. Et il regardait si j'avais fait du bon travail, si les différents verrous qu'on avait mis en évidence avaient lâché. Et puis, ou s'il y avait d'autres choses qu'il fallait encore corriger ou encore faire. À ce moment-là, il le faisait. Et avec ça, bah, j'ai vraiment appris toute sa technique. Des choses vraiment complètement différentes, beaucoup plus énergétiques, fluidiques et je dirais même précises au niveau anatomique que j'avais pas du tout apprises pendant mes études et ça a vraiment été passionnant. Et à la fin de l'année, j'ai ouvert mon cabinet à Neuchâtel et je l'ai même demandé si je pouvais pas rester une année de plus pour travailler encore un jour par semaine chez lui parce que j'apprenais tellement en fait avec lui et j'avais plaisir aussi de le côtoyer. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Très humain, il avait une ferme avec sa femme qui avait la sclérose en plaques et il avait son cabinet là à la ferme et il s'occupait des moutons. Des fois, si moi je travaillais le mercredi chez lui, des fois je sais plus s'il avait congé l'après-midi ou quoi, mais je le voyais en mode paysan avec sa chemise, avec la limite du foin. Ouais, c'était vraiment. Il faisait du piano, il faisait de l'aïkido, vraiment quelqu'un de très très complet comme ça. Il avait déjà aussi une conscience écologique. Ouais, c'était vraiment un bonheur de le côtoyer puis d'apprendre auprès de lui. Et donc j'ai ouvert mon cabinet en 2002. Et pendant 2 années, j'ai quasiment fait que de travailler en fait. José, je crois que je suis partie une semaine en vacances en 2003 et j'osais pas quitter mon cabinet en fait. Je m'en voulais de ne pas être présente pour mes patients vu que c'était mon cabinet. Je m'étais mise une grosse responsabilité et puis j'ai eu une rupture douloureuse à ce moment-là et j'ai eu besoin de me prendre 1 mois de congé et de voyager seule. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie donc début 2004 pendant 1 mois en Thaïlande. Et là, en fait, c'est là que j'ai différentes expériences vraiment profondes au niveau spirituel qui ont commencé à se passer. Mon voyage en Thaïlande, je l'ai choisi parce que j'avais entendu qu'il y avait des temples en Thaïlande où on pouvait méditer et puis qu'en tant que touriste, on pouvait y aller et on pouvait faire des séjours en fait de 10 jours de méditation. Et en méditant 10 heures par jour. Et j'avais entendu parler méditation déjà depuis quelque temps. Et voilà, j'ai eu envie de le faire. Donc je suis partie là-bas avec cette intention de faire mes 10 jours de méditation. Et là-bas, je me suis retrouvée sur une petite île parce que j'avais d'abord une partie un peu voyage comme ça. Et puis après, ce désir d'aller faire cette retraite de méditation. Et je me suis retrouvée sur une petite île à discuter avec un charmant Thaïlandais. Et je lui ai expliqué mon projet et tout. Et il m'a dit, ah, mais c'est pour l'ouverture du cœur que tu veux faire ça. Et puis j'ai dit oui. Et en fait, en discutant avec lui à ce moment-là, il y a eu un truc juste incroyable qui s'est passé. C'est que j'ai senti cette énergie du cœur, en fait. Cette ouverture du cœur, cette. Moi, je le décris comme l'amour inconditionnel. Ça me touche quand j'en parle parce que c'était tellement beau. Et c'était juste, ben voilà, on était au lui, il était serveur dans un petit restaurant minuscule au bord de la plage. Enfin, un restaurant, c'est un bien grand mot. Il y avait deux, trois petites tables, il cuisinait deux, trois petits trucs. Et j'étais dans cet état tout à coup d'amour inconditionnel et d'ouverture du cœur. C'était la première fois que je sentais ça et waouh! Ça a été vraiment puissant. Et ensuite, eh bien, je suis partie faire mes 10 jours de méditation. Et puis là, il y a eu plein de trucs qui sont passés qui ont fait que je suis arrivée en retard, en fait. À l'époque, ben, il n'y avait encore pas vraiment Internet. Et c'était pas très clair à quelle heure ça commençait, etc. Mais moi, je suis arrivée, je pense, à 4-5 heures de l'après-midi. Et il se trouve que ben, le stage était complet. Enfin, le stage, la retraite était complète. Et puis, comme on était plusieurs à être arrivés plus tard et à se retrouver devant, voilà, qu'il n'y ait plus de place pour nous, ils ont décidé de mener une deuxième retraite en parallèle, mais dans d'autres locaux. Donc, sur le même site, mais à un autre endroit du site. Et c'était vraiment. Moi, je me suis retrouvée dans une chambre, c'était comme une sorte de cellule, en fait. Il y avait trois murs. Un plafond, un sol, et le quatrième mur, c'était des barreaux. Des barreaux, comme une prison. Et le lit, c'était. Bah, on imagine un lit avec un cadre et un sommier. Il y a le trou où on met le sommier. Bah, en fait, il n'y avait pas de trou, mais c'était une planche de bois. Et bien sûr, c'était pas du tout large. Hein, c'était plus ou moins la largeur d'un tapis de gym ou d'un tapis de yoga. Et il n'y avait pas de matelas. Donc, en fait, je dormais là sur une planche de bois. Et le coussin, c'était encore mieux. Le coussin, c'était aussi un objet en bois. Donc, aucune plume, aucun moelleux. Hein. Et c'était un truc en bois avec quelque chose d'un peu légèrement incurvé comme ça. Donc, on pouvait juste caler un petit peu la tête, tout petit peu en hauteur. Mais c'était complètement dur. Et moi, j'avais très, très peu de bagages. J'avais, bien sûr, à cette époque-là, je ne voyageais pas encore avec mon coussin. Donc j'avais un pareo que j'avais essayé de mettre un peu pour avoir un tout petit peu de moelleux, pour essayer de pouvoir dormir un peu, mais c'était juste impossible de dormir. Et puis surtout, il n'y avait pas de moustiquaire. Et je me rappelle même plus si j'avais du produit en moustique, mais pour de l'anti-moustique ou mais ben, avec les barreaux, les moustiques, ils passaient comme de rien. Je me faisais dévorer. Moi, j'ai toujours été l'anti-moustique des autres. Et puis en plus, ben voilà, on se levait le matin à 4 heures du matin pour méditer. On devait aller dans un espace, une sorte de salle, mais qui était ouverte aussi. Et puis pour y aller, ben, il n'y avait pas de lumière. Donc je ne me rappelle plus, je ne sais même plus si j'avais un téléphone à ce moment-là. Mais je sais pas si il nous avait laissé peut-être une lampe torche, une lampe de poche. Mais il y avait des sortes d'escaliers, c'était un peu dans la jungle, en fait, puis c'était glissant parce que c'était la saison des pluies. Et moi, j'avais failli plusieurs fois m'abîmer les genoux, etc. Et voilà, on méditait là, on faisait dévorer par les moustiques. Ensuite, il y avait des moments de méditation aussi qui étaient, ça c'était le soir à côté d'un étang. Et juste au moment du coucher du jour, et là aussi, on se met dévoré par les moustiques. Et je me rappelle, il y avait le moine, il était, ben, il nous disait qu'il faut pas dormir, en fait, parce qu'en méditant, on était assis pendant de longues heures, mais qu'on doit garder cet état de conscience où on est complètement détendu, mais on reste présent, puis on continue de méditer. Et puis moi, une fois ou l'autre, justement, j'en pouvais plus de ces moustiques, du coup, j'avais ouvert les yeux et j'avais vu qu'il dormait. Donc il était assis là, mais il dormait complètement. Puis je te l'avais. Il nous apprend la méditation. C'est un moine. Il est censé faire ça bien, quoi. Et puis il dort et il nous dit qu'on ne doit pas dormir. Enfin, ça m'avait déstabilisé. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus après 3, 4 jours. Surtout que j'étais amoureuse là de mon Thaïlandais. J'étais là, non, mais moi. Et du coup, j'ai arrêté cette méditation, je suis partie pour rejoindre mon Thaïlandais. Il me reste encore une petite semaine à passer en Thaïlande. Mais cette expérience m'a quand même fait voir les choses autrement, c'est-à-dire que je me disais, mais c'est quand même bizarre. Là, on méditait 10 heures par jour environ. On a ces moments de méditation où ben, on est en méditation, on a cet état de conscience, puis après on en ressort. Et puis on perd ça. Puis je me suis dit, mais ça, c'est pas normal. Il faudrait. Moi, mon intention, mon souhait, aussi de voir ce prof qui s'endormait, etc. Moi, mon souhait, c'est de d'arriver à méditer en fait 24 heures sur 24, c'est-à-dire pas de méditer, mais de d'être dans cet état méditatif en vivant en fait de la vie de tous les jours, à tout moment. Et ça a été le départ d'une autre forme de quête, vraiment, d'état de conscience et justement de cet état méditatif. Et bien sûr, je n'y suis pas du tout encore, hein, 24 heures sur 24, non, loin, 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 loin de là. Il y a des moments où je suis complètement déconnectée, je fais des boulettes, je suis dans les trucs vraiment très humains d'avoir peur de ci, des doutes de ça, etc. Mais ça a été quand même, depuis ce moment-là, cette intention de... Ouais, de garder cet état de méditatif, de présence, de conscience dans toutes les occasions de la vie humaine, en fait. Et donc voilà, après, je suis allée rejoindre mon chéri thaïlandais. Et puis, et avant de repartir, moi, je repartais de Bangkok. Je suis restée, je pense, 2 jours à Bangkok. Et à Bangkok, je suis allée visiter ces fameux temples. Il y a le temple du Bouddha couché et le temple du Bouddha de Jade aussi. Et je suis arrivée dans le temple du Bouddha de Jade, et c'est très surprenant parce que, en tout cas, dans ma mémoire, c'est que le Bouddha, il est tout petit. Et je dis, oh, bizarre, je pensais que c'était quelque chose de grand. Et non, pas du tout. Et en fait, je me suis assise là, un peu par dépit, en me disant, bon, bah, je vais m'asseoir là, de toute façon, il n'y a rien à voir, rien à faire. Et je me suis assise et j'ai fermé les yeux, puis justement, bah, je sortais de cette retraite de méditation. Et là, il s'est passé un truc incroyable, c'est que je me suis retrouvée, je ne sais pas quel mot utiliser, comment définir exactement, mais moi je dirais dans un état de béatitude, mais c'est même pas ça, je pense, enfin, je n'ai pas envie d'être prétentieuse en disant ça ou quoi que ce soit, mais pour moi ça évoque les personnes qui parlent de samadhi ou bien de nirvana. Je me suis retrouvée dans un espace, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais dans une ambiance, voilà, complètement lumineuse. Ouais, mais je préfère utiliser le mot espace quand même, dans un espace complètement lumineux, avec un amour inconditionnel et un état où tout est possible, tout est. Je ne sais pas comment dire autrement. Un bien-être, une paix. Ouais, je ne sais pas comment le décrire, mais vraiment, c'était juste incroyable ce moment-là. Et depuis que je l'ai vécu, ça, c'est quelque chose qui me porte vraiment de pouvoir être dans ce tel état de présence, de conscience, de lumière, d'amour, ouais, quelque chose qui se relâche complètement, d'être complètement bien, complètement. Il n'y a même plus de corps, c'est juste. Cette conscience divine, cette présence divine, comme on se retrouve dans un soleil, quelque part, voilà, comme ça pourrait être tout à coup de se retrouver dans un soleil, un cocon comme ça, lumineux, chaleureux, de bien-être ultime. Et ensuite, donc ça c'était en 2004, ensuite, ben voilà, je suis retournée à mon cabinet, j'ai continué à travailler, etc. Et ensuite, en 2005, j'ai lu un livre qui s'appelle La vie des maîtres. Et ça a été un livre qui m'a profondément chamboulée, dans le bon sens du terme, en fait. J'étais en train de le lire, je me rappelle, et puis la veille, j'avais mangé, je m'étais faite de la, j'habitais à Lausanne à ce moment-là, je m'étais faite de la choucroute. Et le jour où je lisais ce livre, j'avais prévu, ben, moi, j'aime pas de jeter la nourriture, donc autant que possible, je la réchauffe toujours, je la recuisine les jours suivants. Et je n'ai plus pu manger cette choucroute. C'était impossible. La viande me. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc en lisant ce livre. Pourtant, il ne parlait pas du tout de ne pas manger de viande, de quoi que ce soit. En tout cas, pas dans mon souvenir. Et du coup, bah, je me rappelle avoir dû jeter mon reste de choucroute. Et puis, je me suis fait autre chose à manger. Je ne sais pas si j'avais mangé juste les pommes de terre avec le chou ou si je m'étais cuisiné carrément autre chose. Mais une des rares fois de ma vie où j'ai jeté un repas parfaitement consommable, parfaitement normalement délicieux. Simplement parce que j'ai pas pu. Et suite à ça, j'étais végétarienne, puis même après végane pendant plusieurs années. Je suis plus aujourd'hui, hein, mais ouais, il y a vraiment un profond changement avec ce livre. Et j'ai été vraiment très, très, très inspirée par ces maîtres qui avaient dépassé comment dire, dépassé les limitations qu'on a en tant qu'être humain de l'espace et puis du temps. Ouais, je ne vais pas en dire plus pour aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, lisez ce livre et vous comprendrez mieux. Et en fait, c'était un autre point de départ de ma vie où j'ai eu le besoin et l'envie et le désir de rencontrer ces maîtres, en fait, pour pouvoir apprendre avec eux. Et j'en ai rencontré deux, plus ou moins. Je ne sais pas si c'est vraiment du niveau de ces maîtres, de ce livre-là, mais en tout cas, un niveau qui est plutôt proche. Et en fait, cette même année-là, j'ai participé à une retraite c'est pas vraiment une retraite de méditation, c'était une retraite plutôt spirituelle à Venise et puis en Slovénie avec un maître philippin américain, Master Delpé, il s'appelle. Et lui, il avait étudié auprès d'un maître justement comme ça qui vivait dans l'Himalaya. Il était resté, si ma mémoire est bonne, 2 ans avec lui. Et son maître, à lui, il vivait dans la glace. Donc sans manger, sans boire, je sais pas, peut-être s'il buvait, s'il était capable de réchauffer la glace et puis de boire l'eau que ça devenait, ou s'il n'avait pas besoin d'eau, ça je me rappelle pas. À l'époque j'étais très timide donc j'avais peu posé de questions, mais en tout cas il mangeait pas, ça c'est sûr. Et puis il avait une particularité, c'est qu'il avait 300 ou 400 ans et il avait appris ben, beaucoup de choses à ce Master Delpé. Sur l'énergie, sur la guérison, sur les capacités du corps. Et c'est des choses qu'il nous avait enseignées, notamment pendant sa retraite. Et puis après, j'ai fait d'autres cours aussi avec lui. Et à l'époque, c'était pas, on parlait pas des bains froids, etc. Mais lui, il nous avait déjà fait à sa retraite pratiquer les bains froids où il avait une technique énergétique où il pouvait faire que notre corps il commençait à produire de l'énergie. Et ça produisait de la chaleur. Et avec ça, bah, on était confortable dans le froid, en fait. Et moi, qui étais hyper, hyper, hyper frileuse, il nous avait fait rentrer dans comment dire, une rivière où il y avait un espace un peu comme un bassin dans le lit de la rivière. Et c'était une rivière, voilà, qui venait d'un glacier. Elle était vraiment gelée à 3-4 degrés au printemps. Et puis j'avais pu rentrer dedans ben, vraiment facilement et me sentir bien. Et ça avait été ouais, aussi waouh. J'avais aussi eu une autre vision des pouvoirs du corps humain à ce moment-là. Et pendant cette retraite, il y a autre chose, une autre chose qui s'est passée aussi, c'est que je me suis blessée. Ils nous avaient amenés dans une piscine un peu station thermale en Hongrie. Et il y avait un coin pour les enfants, mais aussi pour les adultes, où il y avait des toboggans, des choses comme ça. En fait, Master Delpé, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous mettait vraiment en situation de plein de choses. Et en fonction de ces situations, bah, ça nous faisait vivre certaines peurs ou certaines émotions. Et c'était pour lui l'occasion bah, de les dépasser, de les guérir, et puis de libérer l'énergie qui était contenue dans ces événements-là. Et moi, en fait, le toboggan où je suis allée avec les autres, il y avait tout à coup eu un passage où vraiment il y avait une sorte de descente à pic. Et moi, j'ai eu super peur. Et ça m'a déstabilisée pendant la descente. Et du coup, à l'atterrissage, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai mal mis mon pied au lieu de me laisser atterrir puis glisser doucement. Je suis atterrie vraiment où j'ai été propulsée dans le fond du bassin. Et il y a mon pied qui s'est mal mis. Et du coup, ça m'a fait une entorse. Et j'ai même cru que je m'étais cassé le pied tellement, tellement j'ai eu mal. Mais en fait, non, heureusement pas, c'était une entorse, mais j'étais vraiment bien embêtée, j'avais de la peine à marcher, je boitais. Ouais, enfin, c'était limite, enfin, j'aurais dû être amenée à l'hôpital. Et puis en fait, à ce moment-là, bah, c'était l'heure de rentrer, puis on avait un long trajet en bus. Et il y avait un des étudiants proches de DLP, parce que moi, c'était vraiment la première fois que je le rencontrais, je ne le connaissais pas encore, je n'osais même pas lui parler, parce qu'il était vraiment, c'était un maître, il avait une prestance, un magnétisme, une énergie. Moi, j'étais toute timide. En plus, il avait ce côté très américain, comme ça, avec beaucoup de confiance en lui, etc. Et pendant ce trajet en bus, Et je m'étais liée de sympathie avec un des étudiants proches de Delpé qui a fait beaucoup, beaucoup de choses avec lui, puis qui m'avait vu boiter et puis qui me demandait ce qui se passait, tout, puis je l'avais expliqué. Puis du coup, il m'a dit, ah, tu veux que je te fasse un truc? Je lui ai dit, oh, bon, volontiers si ça peut m'aider, parce que pour moi, ben, le reste de mon séjour était fichu et je pensais que je devrais aller à l'hôpital, ou en tout cas, je pourrais plus marcher, participer aux différentes activités. Travaillant comme ostéopathe, je connais quand même un petit peu ce qui peut se passer avec des grosses entorses. Et il a commencé à me faire un soin énergétique, en fait, donc il m'a pas du tout touché. Mais j'ai commencé à sentir pendant le soin que la douleur commençait à diminuer. Et ça a été pour moi juste incroyable. J'ai plus boité, j'ai plus mal, et ça a très vite désenflé. Et je me suis remise comme ça de mon entorse. J'ai pu participer à toutes les autres activités. Le lendemain, on est allé faire une marche en montagne. J'ai pu tout faire, en fait. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même parce qu'en fait, il enseignait au DLP la médecine énergétique. Et je me suis dit, waouh, c'est juste incroyable le pouvoir de l'énergie, ce que ça peut faire sur le corps. À l'époque, j'étais encore bien formatée par mes études, ce qui était possible avec le corps humain, ce qui ne l'était pas. Donc, j'ai quand même que je l'avais vécu moi-même, j'ai quand même resté un petit peu sceptique et j'avais commencé à pratiquer ces techniques de médecine énergétique dans mon cabinet. Puis je ne sais plus exactement comment ça s'était passé, mais j'avais proposé à deux, trois patients de faire, je pense, gratuitement, etc. Puis j'avais une dame qui m'avait vraiment dit que c'était nul, quoi, que ça lui avait absolument rien fait, cette séance, que ça servait à rien, blablabla. Et du coup, ça m'avait découragée, et puis j'ai plus jamais vraiment refait, de temps en temps, un tout petit peu ici et là, mais j'ai plus continué dans cette voie, et voilà, ça s'est arrêté comme ça. Mais peut-être que j'y reviendrai un jour. À voir, parce qu'avec ce qui se passe avec la Kundalini, ce sera peut-être pas, même pas nécessaire. Ensuite, en 2006, je suis allée au Brésil. Pour ceux qui connaissent, qui avaient entendu parler de John of God, de João de Deus, c'est un grand guérisseur brésilien. Voilà, ça m'intéressait. Il était aussi capable de guérir des gens atteints vraiment très profondément de leur santé, avec des techniques juste aussi incroyables. Et là-bas, j'avais rencontré un guérisseur français qui avait à l'époque 70 ans. Et moi, j'étais beaucoup plus jeune, bien sûr. Et ce guérisseur, en fait, pour moi, il ressemblait un peu à mon image enfantine. Enfin, j'étais plus enfant, mais un peu naïf, comme ça, du bon Dieu. Il avait un côté très aimant, très rassurant, très lumineux. Et du coup, il m'a proposé d'aller chez lui pour qu'il m'enseigne ses techniques. Il était aussi géobiologue, il était guérisseur avec l'énergie, avec les cristaux. Pendant une année, en fait, j'allais chez lui, je ne me rappelle plus exactement, je pense 2 semaines par mois, quelque chose comme ça. Après, je revenais en Suisse, il habitait à Orléans, donc j'étais à 6-7 heures de route. Et après, je revenais dans mon cabinet et je faisais comme ça beaucoup d'allers-retours. Et en fait, lui, il a fait quelque chose qui m'a pas plus, c'est que il m'a dit qu'on avait eu une vie antérieure ensemble, et voilà, qu'on avait été mariés, et puis que je sais plus dans quel pays c'était, un pays, je pense, du Maghreb, et que lui, un jour, il était parti en montagne, et puis qu'il avait un accident, puis qu'il n'était pas revenu, et puis que moi, du coup, ça m'avait créé une énorme douleur, et puis que j'avais fini tristement ma vie dans le deuil, la perte de mon mari, etc. Mais en me disant ça, bah, c'est comme si j'étais, parce que à l'époque, moi, j'étais encore très jeune, très un peu naïf comme ça. Une partie de moi avait cru à ce qu'il m'avait dit. Ça m'avait touchée, et j'étais presque tombée amoureuse de lui alors que j'étais beaucoup plus jeune, vraiment beaucoup, beaucoup plus jeune. Et petit à petit, de le côtoyer, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche, en fait. Moi, je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment ma vie antérieure, ce qu'il m'a dit? Parce que moi, le fait qu'il m'ait dit ça, c'est comme si ça m'avait un peu, pas amadoué, mais ça m'avait touché. Et puis je me suis dit, ah ben, si je le retrouve maintenant, après toutes ces années, enfin toutes ces vies, ben, même quand on a une différence d'âge, ben, il y a peut-être quelque chose à finir ensemble, etc. Et je me suis rendu compte en fait que c'était faux de faire ça. C'était faux de dire à quelqu'un ce qu'il avait eu comme vie antérieure, si, alors que ben, dans mon cas, très certainement, c'était pas ma vie, ça m'appartenait pas à tout ça. Mais par contre, ça m'avait influencé. C'est pour ça que depuis ce moment-là, je suis vraiment toujours très, très, très prudente quand je discute avec des patients ou avec d'autres personnes de pas leur coller, leur mettre des choses qui leur appartiennent pas. Alors peut-être que ma foi, ça m'arrive des fois inconsciemment, mais c'est vraiment pas du tout ma volonté et quelque chose à laquelle je fais attention. Et je me rappelle, j'avais eu des patients qui étaient allés voir des guérisseurs ou des personnes qui travaillaient sur les vies antérieures, puis qui me disaient, ah, mais elle m'a dit, telle personne m'a dit que j'ai eu telle vie, ça a fait ci, ça a fait ça. Et c'est toujours quelque chose qui, pour moi, qui résonnait pas. Pour moi, si on a eu d'autres vies, ça doit venir de soi, ça doit pas venir de quelqu'un d'autre qui nous dit ce qu'on a vécu, en fait. Et ouais, voilà. C'est ça que m'a appris cette expérience-là. Et en fait, ça m'a ramené à Delpé, c'est que avec ce guérisseur, on avait appris que Delpé venait donner un séminaire à Lyon, en France. Et puis, ben, ce guérisseur, il était toujours très intéressé de faire différentes formations continues, etc. Et il avait envie ben, de rencontrer Delpé, comme je lui en avais parlé. Et en allant à Lyon, ben, j'ai vu ce Delpé et j'étais là, waouh! Et puis, moi, j'étais avec ce guérisseur-là, enfin. J'ai eu très envie de passer du temps en fait avec Delpé et il se trouvait que quelques mois plus tard, il donnait des cours en Afrique du Sud. Il avait monté à l'époque comment dire, un projet en Afrique du Sud pour travailler avec les Sidéens, avec sa médecine énergétique. Et dans ce cadre-là, il emmenait une partie de ses étudiants sur place. D'une part pour faire recevoir des, enfin qui donnent des formations, puis d'autre part aussi pour les amener à travailler avec des gens qui avaient le sida. Il faut savoir que Delpé, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des gens très très déjà à l'époque des gens très très fortunés, notamment un Mexicain qui était à la tête de nombreux médias au Mexique, qui était une des grandes fortunes de ce monde, et dont le fils avait été avait failli avoir une overdose. Et son fils avait le sida et il était vraiment mal pris avec des drogues, etc. Et Delpé avait pu, enfin, avait été amené, invité à lui donner des soins, lui faire des séances. Et il se trouve que suite aux séances qu'il avait fait avec Delpé, eh ben, il n'avait plus le sida. Et ça, c'était un truc juste incroyable. Moi, j'avais jamais entendu ça à l'époque. Que c'était possible d'avoir le sida puis de plus l'avoir suite à des séances en énergétique. Et puis bon, bah, on peut imaginer le fils de ce grand monsieur des médias au Mexique. Il avait les meilleurs médecins, etc., les meilleurs tests, les meilleurs laboratoires. C'était pas une erreur du tout. Et suite à ça, bah, justement, Delpé avait commencé à organiser des programmes en Afrique du Sud pour... Ben, donner des soins aux sidéens, en fait. Et puis moi, j'ai eu envie de participer à ça. Et je suis allée participer à ça. Donc, j'ai fait ces cours. Je suis allée à... Comment ça s'appelle à... Ah, j'ai plus le nom. Soweto, je crois. C'est un des endroits apparemment les plus dangereux de la planète, sur la liste des tops endroits où il ne faut pas aller si on n'a pas envie de ressortir entre quatre planches. Mais c'est un endroit où il y avait beaucoup de sidéains, en fait. Et puis, on avait passé là un jour. Et j'en garde vraiment un souvenir juste incroyable. Et ce qui s'est passé pendant ce moment avec Delpé, c'est que je suis tombée amoureuse de lui. Et suite à ça, en fait, il m'a proposé, quelques semaines plus tard, il partait donner des cours aux Philippines et puis en Inde. Il m'a proposé de le rejoindre, en fait, pour ben, l'accompagner pour ses cours. Et ben, du coup, j'ai dit oui, il voulait aussi aller au Japon pour tester un peu l'énergie sur place. Donc, c'est ce que j'ai fait depuis l'Afrique du Sud. Je suis rentrée juste quelques jours en Suisse et Zou. Je suis partie faire un tour du monde au Japon d'abord, ensuite aux Philippines où il a donné les cours et puis moi, j'ai donné les petits coups de main. Et ensuite en Inde, où il avait été invité. Il était connu en Inde déjà parce qu'il avait déjà écrit plusieurs livres et il parlait même beaucoup de spiritualité, du troisième œil, etc. Et il y avait une conférence, c'est pour ça que j'avais dit oui à ce voyage. En fait, c'est que à New Delhi, puis moi j'étais allée beaucoup en Inde dans ma vie, il était invité pour parler à une grande conférence qui avait lieu sur 3 jours. Et la tête d'affiche de cette conférence, c'était Deepak Chopra. Pour ceux qui le connaissent, c'est un médecin ayurvédique d'origine indienne, mais qui vit aux États-Unis, qui a vendu, je pense, des millions de livres. Donc une grande figure de la spiritualité d'une part, et puis de la médecine d'autre part. Et puis de pouvoir, moi, aller à New Delhi avec Delpé, avec en plus ce Deepak Chopra, enfin, j'étais là, waouh, c'est juste génial. Donc j'avais accepté d'aller là-bas. Et il nous avait emmenés dans différents ashrams, dans différentes régions de l'Inde. On avait fait tout un tour. Il y avait d'autres personnes qui étaient venues nous rejoindre, d'autres de ses étudiants proches. Et ouais, aussi, c'était juste assez incroyable ce voyage. Et ensuite, ensemble, on était rentrés aux États-Unis. Et puis, j'avais commencé à organiser pour lui des séminaires en Suisse. Il était venu 2 fois. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue, en fait, qu'il avait une chérie sur chaque continent. Et ça m'a pas trop plu. Parce qu'en fait, il nous apprenait des techniques où on pouvait, des techniques énergétiques où on pouvait avoir des informations qu'on gardait pour soi, en fait, qui n'étaient pas lisibles pour les autres personnes. Et il se trouve que moi, j'avais réussi à lire ça, en fait. Et puis, j'en ai eu les preuves physiques même. Et du coup, j'ai arrêté tout. J'ai dit, ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Je veux pas d'un chéri qui a des chéris sur chaque continent. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté d'organiser des cours pour lui. J'ai arrêté d'étudier avec lui. Ce qui était dommage à quelque part parce que c'était vraiment génial ce qu'il proposait. Et j'étais sur un chemin de... Ouais. Où j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, avoir de la gloire. J'avais commencé à donner des ateliers en Suisse. J'avais une vingtaine de personnes, ce qui m'avait complètement dépassée à l'époque. J'étais encore toute jeune. Mais j'ai dit non à tout ça. J'ai dit non. Moi, non, je suis pas d'accord. C'est pas. S'il m'en avait parlé, ça aurait été différent. Mais là, non. Donc voilà, Delpé, ça s'est arrêté comme ça. Lors du voyage en Inde, j'avais rencontré en fait un Indien qui venait du Cachemire, et puis j'avais lu déjà plusieurs livres sur le yoga du Cachemire, sur ces techniques qu'ils avaient de respiration, de massage, de toucher, de spiritualité, et ça m'intriguait en fait. Et il se trouve que ben, j'étais restée en contact avec cet Indien qui venait du Cachemire, et puis je m'étais dit waouh, en fait j'avais envie d'aller au Cachemire là aussi pour aller à la source. Pour les rencontrer ses maîtres. J'ai décidé d'aller, donc quelques mois plus tard, j'allais passer, je crois, 2 semaines au Cachemire indien. Et il se trouve que c'est resté un ami depuis, Var, il s'appelle. Il n'était pas du tout versé dans cette compréhension-là, dans cette énergie-là. Donc, ouais, ça a été vraiment très intéressant parce que ce n'était pas du tout ce que je cherchais. Mais ça reste vraiment ouais, des bons moments aussi. Oui, bon, suite à ça, avec Var, je suis allée plusieurs fois sur une période de 2 ans. Je suis allée plusieurs fois en Inde, différentes régions de l'Inde, dans différents ashrams. J'ai considéré le fait de l'épouser un moment. Et je me rappelle, je suis allée en 2009, un dernier voyage. Où vraiment j'avais. Ouais, je m'étais dit, c'est bon, on va se marier. Moi, je ne lui avais rien dit, et donc je suis partie faire encore un voyage en Inde avec l'intention bah, d'y en parler. Voilà. Et ce voyage, ça a été la catastrophe. En fait, je l'ai vu avec les yeux de la différence culturelle, la manière qu'il avait de réagir par rapport à... On était sur une plage à Goa, par rapport où il y avait des chiens errants. La manière de réagir avec ces chiens, la manière de traiter, on avait une petite hutte, un petit hôtel, c'était même pas un hôtel, c'était une petite pension. Un jour, on a croisé la personne qui était... La dame qui était venue faire le ménage, et puis la manière qu'il a eue de la regarder, ou de pas la regarder. Parce qu'en Inde, ben, il y a vraiment cette histoire des castes. Et il y a des gens qui sont intouchables, inregardables même. Et la manière dont il la considérait, mais même pas, il y a zéro considération, c'était même pas un être humain pour lui. Alors que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, bah, vraiment, il avait un pensionnat qu'il avait monté, qu'il avait créé lui-même dans sa Ashrinagar, dans sa ville au Cachemire. Il avait recueilli une quarantaine d'enfants qui avaient perdu leurs parents. Et il les nourrissait, il les habillait, il payait les, il avait payé ben, cette grande maison où ils vivaient tous, il payait les éducateurs, il leur offrait l'école. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de cœur, mais c'était sa culture que, voilà, une dame qui venait faire le ménage, elle ne méritait même pas d'être regardée, qu'on lui parle ou quoi que ce soit. Puis moi, ça m'avait profondément choquée à l'époque. Et voilà, il y a eu d'autres choses qui se sont mises aussi où je me suis rentrée mais dans une énorme colère. Et j'étais là, non, mais moi, je peux pas me marier avec quelqu'un qui a cette manière-là de se comporter. Et ça m'allait pas du coup. Donc, je suis repartie de ce voyage fâchée. Je lui ai à peine dit au revoir à l'aéroport. Et là, encore une fois, la vie m'a fermé une porte pour m'amener autre chose. Et c'est cette même année où j'ai refait une retraite de méditation de 10 jours que j'avais avortée bien des années avant en Thaïlande. Et là, j'ai bien tenu les 10 jours. Donc, c'est 10 jours, 11 jours en fait, en silence, à méditer 10 heures par jour environ. Et là, j'ai vécu des choses assez incroyables. C'est que on était dans une chambre où on était deux. Et il y avait une fille qui était avec moi un soir, enfin une nuit. Je commence à entendre des cris. Et ben je me réveille, je regarde, je mets la lumière. Et puis en fait, elle était en train de faire une crise d'épilepsie. Et moi, à l'époque, ben voilà, j'avais entendu parler d'épilepsie pendant mes études, mais je ne savais pas plus que tant ce que c'était. Je n'avais jamais eu de patient qui avait de l'épilepsie. Je n'avais jamais vécu de près comme ça une crise épileptique. Et j'ai vraiment eu peur. Elle a commencé à. Elle respirait plus, elle faisait des bruits vraiment très désagréables, et puis elle commençait à avoir ces sortes de spasmes. Et c'était le milieu de la nuit, et je suis tout de suite allée chercher une des responsables. Je l'ai réveillée parce qu'on avait un système, on était en silence, mais en cas d'urgence, bien sûr, on pouvait communiquer. Et puis il y avait un système de garde, et cette personne est venue. Et donc, c'était l'encadrante, hein, c'était pas la prof, mais c'était une jeune femme, toute jeune, plus jeune que moi. Et elle était venue et elle n'a pas du tout paniqué en fait. Elle est restée. Elle m'a dit, oh non, mais c'est rien, c'est juste l'énergie qui circule. Et elle est restée toute tranquille, comme en état un peu méditatif, avec une présence comme ça aimante. Je ne crois même pas qu'elle a touché cette fille qui continuait à faire ses convulsions. Et tout à coup, les convulsions ont commencé à diminuer en intensité, à s'espacer. Et ma collègue de chambre a commencé à s'apaiser et à respirer paisiblement. Et après, je me rappelle même plus si elle a dit deux, trois mots, elle a bu un verre, ou bien si simplement elle s'est rendormie dans son sommeil, elle est retournée dans son sommeil, ça je me rappelle plus. Mais ça a passé comme ça, et l'encadrante est partie, et moi j'étais là, bah, ok. Et j'ai terminé ma nuit, et puis le lendemain, je pense que je n'en avais pas parlé parce que moi je respectais vraiment le silence, mais c'était comme si de rien n'était en fait, comme si c'était jamais rien eu. Et moi j'ai eu la peur de ma vie, j'étais réveillée comme ça en pleine nuit par ces cris, et puis après voir ce qui se passait. C'était vraiment choquant, mais bon, bah, j'ai continué ma méditation. Puis les autres nuits, j'étais un petit peu sur mes gardes, me dire mais est-ce que ça va se repasser? Tout, il n'y a plus du tout eu. Et puis à la fin du 10e jour, ou je sais plus si c'est la fin du 10e jour ou bien le 11e jour, on peut de nouveau discuter. J'avais échangé deux, trois mots avec cette collègue de chambre, et il me semble qu'elle se rappelait même pas de ce qui s'était passé. Elle était toute surprise que je lui dise ça, que ce qui s'était passé, que j'avais été un peu en souci, etc. Voilà, ça s'était passé comme ça, mais c'est vrai que ça m'a appris le pouvoir de cette paix tout à coup. De cette paix, de cet amour, de cette présence, à quel point bah, ça avait pu influencer ce qui se passait pour une autre personne. Et là aussi, c'était un regard un petit peu différent de la médecine, en fait. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, ben je pense qu'ils auraient appelé une ambulance. À mon avis, elle aurait pu être en danger, cette jeune femme. Donc, ouais, elle a encore une autre expérience qui m'a un peu changé ma manière de voir les choses. Et c'est vrai que pendant mes études d'ostéopathie, pendant 5 ans, on a eu beaucoup, beaucoup de cours en médecine. Et il y a eu vraiment. Moi, je dis des fois, c'est comme si on m'avait mis des ornières, comme si on m'avait complètement limitée par rapport au pouvoir du corps humain, en fait. Et il m'a fallu des années, des années, des années pour petit à petit me déconditionner, désapprendre toutes ces choses que j'avais apprises, que le corps, il est comme si, il peut faire ci, il peut faire ça, s'il se passe ci, ça va faire qu'il va se passer ça, et qui amène toujours, ben, petit à petit, des médicaments, des interventions. Et oui, voilà, il m'a vraiment fallu un bon nombre d'années pour petit à petit en sortir, en fait. Et c'est aussi pendant cette retraite que j'ai vécu mes premières montées de Kundalini. On était donc 10 heures par jour hein, en position assise, à méditer, sans parler, idéalement sans penser, mais il y avait tout le temps des pensées qui venaient, bien sûr. Et ça s'est manifesté en fait par des douleurs, je dirais même pas des douleurs, mais une souffrance incroyable au niveau de ma colonne. Et c'était à un tel point que c'était presque jusqu'au point de tomber dans les pommes. Et plusieurs fois par jour, quasiment tous les jours, jusqu'à ce que quelquefois, il y ait tout à coup, comme si tout à coup j'étais capable de me dissocier de ma douleur. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer ou de l'accepter pleinement ou de la transcender. Je ne sais pas exactement quel mot utiliser. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois pendant ces 10 jours où tout à coup, après avoir, mais pendant des heures, eu mais tellement mal, j'ai dit juste presque à tomber dans les pommes, tellement c'était fort. Et tout à coup, il y a eu quelques fois où un éclair comme ça, où il y a eu une autre manière, je ne sais pas si c'était de penser ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la douleur, elle a disparu en une fraction de seconde. Et là, j'étais complètement bien, en fait. Et il y avait comme des sortes de micro-spasmes, comme une énergie qui cherchait à monter dans ma colonne petit à petit. Et ça a été mes premières. Sur le moment, je n'ai pas du tout su ce que c'était, hein, ce qui se passait. Mais en fait, ça a été mes premières montées comme ça de Kundalini. Et suite à cette retraite, en partant, je voyais l'énergie des arbres. J'étais dans un état. Ouais, un état vraiment spirituel, vraiment profond de connexion à moi, de connexion à la nature, de connexion à mon corps, d'acceptation de la vie. Ah, c'était magique. Et cette même année, en fait, j'étais allée voyager, nager avec les dauphins, enfin, pas avec les dauphins, avec les baleines. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, enfin, j'ai entendu parler plutôt d'un Français qui était physicien et qui s'était reconverti dans les expansions de conscience avec des sortes de massages qu'il pratiquait, qu'il avait créé lui-même. Philippe Lebert, il s'appelle, il avait écrit des livres aussi. Et lui, il y avait des participants à ce voyage avec les baleines qui avaient parlé de lui et justement de ces fameuses expansions de conscience qu'il faisait. Et ça m'avait vraiment intéressé. Et j'ai cherché à le rencontrer en fait. Et j'ai participé à des conférences avec lui. Et puis à ce moment-là, j'avais une grande et belle maison dans un petit village, vraiment dans la nature. Et puis je l'avais. Il se trouve que là où il donnait ses conférences, lui, il était français, mais il venait de temps en temps en Suisse. Je crois qu'il était en Bretagne, il était loin, mais il venait de temps en temps une 2 semaines en Suisse ou quoi. Puis j'avais proposé, je ne sais plus comment ça s'était fait exactement, mais j'avais une chambre d'amis chez lui, chez moi, et puis qu'il était venu, qui logeait chez moi en fait. Donc avec ça, on a beaucoup discuté, j'ai vraiment appris à bien le connaître. Et il se trouve que il m'avait parlé d'un processus qu'il faisait, c'était il allait à l'Institut Monroe. C'est un institut qui avait été créé par Bob Monroe, un Américain qui a écrit des livres, qui faisait des sorties hors du corps. Et il avait travaillé notamment avec la CIA aux États-Unis. Vraiment des choses très, très, très pointues et précises de voyages hors du corps et documentées scientifiquement. Et il m'avait parlé d'un de ses amis qui avait qui travaillait aussi justement avec l'Institut Monroe et qui avait un de ses clients ou un de ses amis ou un de ses participants, je crois, à ses retraites, dont l'enfant était autiste. Et cet enfant, il était capable de dessiner sur un dessin. Il faisait une sorte de schéma. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait sur ce schéma, mais c'était comme une sorte de circuit électrique ou quelque chose de ce style-là. Et ça, c'est un truc complètement incroyable. C'est qu'il était capable de prendre un aspirateur, de prendre la prise, de le mettre à un certain endroit de cette feuille de papier, de ce schéma, pas n'importe où, hein, mais de le mettre à un certain endroit. Et l'aspirateur, il commençait à fonctionner. Et il m'avait raconté ça, et en fait, ça avait créé un gros problème pour cette famille, c'est que du coup, ben, ils avaient utilisé ce système pour tous leurs appareils électriques, et ils ne payaient plus de facture d'électricité. Et ça avait créé un problème parce que les compagnies électriques au Canada jugeaient que c'était pas normal que cette famille ne payait, n'avait pas de consommation électrique, et qui devait certainement avoir trouvé un moyen pour frauder ou pour piquer l'énergie gratuitement. Et voilà, ça leur a valu plein de soucis. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable que des compagnies électriques, enfin, je sais pas, moi j'avais déjà une conscience écologique assez poussée à ce moment-là, que des compagnies électriques se rendent compte qu'il existe un moyen pour avoir de l'énergie à quelque part gratuitement, parce que ce schéma, n'importe qui pourrait le reproduire. Et plutôt que de se dire, waouh, c'est génial, on va développer ça, on va faire des photocopies et puis donner ça à tout le monde. Non, ils avaient attaqué la famille. Et puis, ben, à part eux, après, je sais plus s'ils ont continué à l'utiliser ou pas, ou peut-être ici et là, mais à part eux, ben, ça s'est pas du tout développé dans la société. C'est que des années plus tard que j'ai compris. Que les grandes entreprises, que les gens qui nous dirigent, ils cherchent pas l'écologie pour eux. Ils s'en fichent, c'est que le but de se faire, y a que le but de se faire de l'argent, y compris nous mettre des taxes carbone et etc. Enfin, bref, je vais pas polémiquer plus, mais il y a vraiment des choses bizarres qui se passent sur cette planète. Il y a vraiment des gens qui préfèrent se faire de l'argent plutôt que qu'on ait une planète où on n'ait pas besoin de polluer, qu'on n'ait pas besoin de consommer des choses dont on pourrait se passer si on choisissait de développer justement ces différentes technologies. Et là, c'est même pas de technologie, c'est un dessin sur un papier. Enfin, bref. Et je vois que le temps passe, ça fait déjà plus d'une heure. Je pense que ouais, j'arriverai pas jusqu'en 2020, mais je vais juste terminer par ça. C'est qu'en 2010, je faisais beaucoup de stages sur l'ADN et une participante m'avait parlé d'un chaman qui vivait à Nantes, en Bretagne, et qui se nourrissait en fait de nourriture pranique. La nourriture pranique, pour ceux qui connaissent pas, c'est à base de prana. Le prana, bah, c'est l'énergie pure, hein. Et il y a des gens qui sont capables de se nourrir de ce prana et du coup qui n'ont plus besoin de manger de nourriture physique et parfois dans certains cas même de boire. Il faut savoir qu'au niveau biochimique, nos cellules, elles produisent de l'énergie grâce à ce qu'on appelle le cercle de Krebs qui provient en fait de l'oxygène. Donc il y a déjà au niveau chimique, hein, quelque chose qui se passe dans nos cellules qui n'est pas du tout lié en fait à la nourriture. À la nourriture physique. Et ces gens-là, ben, ils sont capables de, comment dire, d'aller directement à ce que leur corps aille directement puiser dans ce système-là et qu'il n'ait plus besoin de se nourrir ben, comme nous autres, hein, de fruits, de légumes, de viande, etc. Et moi, ça m'avait vraiment passionnée et du coup, j'ai eu envie de le rencontrer et je suis allée à Nantes. Il avait une sorte de cabinet, enfin, c'était plutôt chez lui, puis il faisait des séances. Et ouais, c'est aussi une rencontre qui m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que ça faisait 7-8 ans qu'il ne mangeait plus. Il m'avait dit par contre, il buvait encore un peu d'eau. Et je ne sais plus si c'était à ce moment-là ou plus tard, parce qu'après, j'ai voulu faire des stages avec lui, où il s'accordait de temps en temps, je ne sais pas si c'était une fois par mois ou une fois par an ou deux fois par an, un petit café, c'était pas parce qu'il en avait besoin, mais c'était plus par le plaisir, parce que le café lui manquait. Mais c'était aussi une rencontre incroyable, je me rappellerai toujours la qualité de son toucher. Il y avait une telle présence et une telle subtilité dans son toucher. C'était juste incroyable. Juste lui serrer la main, c'était waouh. Et lui, il avait commencé à organiser des stages. Je crois que c'était les stages de 3 semaines où il apprenait ben, aux gens, parce qu'il avait écrit un livre en fait, où il apprenait aux gens à se nourrir aussi de nourriture pranique pour ceux qui le voulaient. Et moi, j'étais à 2 doigts de m'inscrire parce que voilà, j'avais cette recherche de comprendre comment le corps pouvait fonctionner comme ça. Là, encore une fois, ça défiait tout à fait ce qu'on avait appris à l'école. Mais finalement, j'ai pas osé. J'étais trop gourmande. Je me disais, ah non, mais moi, je ne me vois pas ne plus jamais manger. Donc, je ne l'avais pas fait. Mais par contre, ça a été pas le départ, mais la reprise, parce que c'était quelque chose que je pratiquais déjà à l'enfance. Mais j'ai par contre décidé de faire un jeûne dans une clinique, parce que j'ai fait un jeûne long de 17 jours, enfin 11 jours sans manger du tout. Puis, il y avait 6 jours de ce qu'on appelle la descente alimentaire, c'est-à-dire qu'on commence à y a certains aliments à plus manger. Et puis après, de reprises alimentaires qui se faisaient aussi sur place, où on mange vraiment, en gros, des fruits, des légumes, des choses vraiment tout simples pour que notre système puisse réapprendre à manger. Parce que quand on ne mange plus pendant, comme dans mon cas, 11 jours, ou pour certaines zones personnes, des fois beaucoup plus longtemps, ça peut être 3 semaines, 4 semaines, ça prend un petit temps à notre système digestif pour se réhabituer à digérer. Ouais, ça a été vraiment ce jeûne. Aussi une autre forme de guérison pour moi. C'est que moi, je souffrais de fatigue chronique. Et souvent, je me sentais lourde intérieurement. Il y avait des choses que j'arrivais pas, que j'avais de la peine à digérer. De digérer. Je me rappelle qu'enfant, déjà, dans ma famille, ben, on mangeait beaucoup de pain, on buvait beaucoup de lait. Et moi, le beurre, tout ça, j'étais très, très pénible. J'avais de la peine avec le beurre, avec le gras. Le lait, ça allait si c'était du cacao, mais je n'aimais pas vraiment le goût du lait. J'avais toujours l'impression que ça me laissait comme une sorte de film un peu gras sur la langue, dans la bouche. Je n'aimais pas ça du tout. Le fromage, tout le monde autour de moi adorait le fromage. Des fromages, des fois, qui sentaient fort. Moi, ça me dégoûtait toujours. J'étais très pénible pour le fromage aussi. Et là, bah, suite à ce jeûne, j'ai découvert l'alimentation vivante. Dans cette alimentation vivante, il n'y a pas du tout de gluten et il n'y a pas du tout de produits laitiers non plus. En gros, c'est que des aliments, des végétaux. Il n'y a pas de viande non plus, qui sont la plupart du temps crus. Donc des fruits, des légumes, des salades, des algues, qui sont pour la plupart du temps crus ou éventuellement cuits jusqu'à autour des 40 degrés pour que la cuisson n'altère pas du tout les minéraux, les vitamines, etc. Et de manger comme ça m'a vraiment permis de, surtout après le jeûne où mon corps s'était débarrassé de plein de choses, de retrouver une énergie et puis un confort digestif même, qui était juste magnifique. Et c'est pour ça que dans les projets que je souhaite mener par la suite, et aussi dans une interview que j'ai déjà fait pour mon podcast avec Aurélie, j'ai vraiment, comment dire, ce désir d'amener ça. C'est tout cet aspect détox où on va petit à petit nettoyer notre corps de ce qui l'entrave physiquement, et aussi sur les autres plans, bien sûr, mais déjà physiquement. Et puis aussi le nourrir avec justement l'alimentation vivante, avec des nutriments, des éléments qui sont bons ben, pour notre corps, et puis pour notre énergie, et puis pour notre esprit aussi. Et sur ces bons mots, je vais clore ce premier épisode en solo de mon podcast. La suite, ben, je le ferai une autre fois parce que ça fait déjà passé 1 heure et quart. Je vous remercie pour votre écoute et puis ben, je vous souhaite une toute belle suite et je vous dis à bientôt. Bye! Merci pour ton écoute. J'espère que cela t'a montré une partie des incroyables pouvoirs de notre corps humain et de notre esprit. Et je te dis à bientôt pour la suite de mes aventures.